Bien, mesdames, messieurs, chers amis, mon cher Pierre, cher Michel, Renaud Michel, ici présent, messieurs les membres du conseil d'administration de l'OHS, tout d'abord une question pratique. Mon cher Pierre, combien de temps ai-je à ma disposition ? 20 minutes. Nous aurons donc 10 minutes environ de pause. Voilà. C'est une grande émotion aujourd'hui, avant de développer le sujet, c'est une grande émotion aujourd'hui, je tiens à le dire dès à présent, d'être réunis, les différents intervenants de la construction du bâtiment, du projet EPI Grand Est, qui nous sera dévoilé donc, dans quelques minutes. Donc l'émotion est vive. L'émotion est également importante pour le responsable de l'école neurologique Lorraine. J'aime bien qu'on utilise ce terme. Vous allez voir que la sémantique, pour moi, est très importante, malgré mes origines immigrées. Mais je respecte beaucoup la langue française. Responsable de l'école neurologique Lorraine, parce que j'ai réuni ici l'ensemble des élèves construits en une dizaine d'années. Et je suis très fier qu'ils soient devant vous, et encore plus fier que des personnalités nationales soient présentes aujourd'hui pour découvrir la maquette. Je suis très heureux aussi de rappeler que nous sommes l'un des rares centres français, encore plus rare sur le plan européen, à pouvoir proposer, parce que c'est notre rôle, nous le pensons, une offre de soins aux malades, à l'entourage. C'est sans doute pas encore parfait, mais je crois qu'on est sur la bonne voie, à une offre de soins globale. J'aime bien aussi de dire de A à Z, c'est-à-dire l'activité de soins immédiate, prise en charge aux urgences, prise en charge de soins dans le cadre de très haute technicité, un pôle d'excellence, d'évaluation préchirurgicale de l'adulte et très prochainement de l'enfant, qui se situe à un très haut niveau sur le plan international. Prise en charge chez les enfants, avec le groupe dirigé par Emmanuel Raffaut. Prise en charge également sur le plan médico-social, et c'est la prise en charge globale, sanitaire et médico-sociale, qui fait toute l'originalité et la force donc, des propositions dans le domaine de l'épilepsie sur la région Lorraine et peut-être également au niveau d'EPI Grand Est. Cela ne se fait pas sans, persévérance, mais également trouver des écoutes très importantes. Et M. le doyen Henri Coudane, qui viendra dans quelques minutes, et les responsables du CHU, Centre hospitalier et universitaire de Nancy, ont fait les efforts nécessaires, les investissements nécessaires. La collectivité médicale HU de la faculté et du CHU ont investi, comme on dit, c'est-à-dire ont fait des choix, en l'occurrence, et ces choix sont, entre guillemets, au détriment d'autres disciplines, il faut le savoir. Ce ne sont pas des créations d'emplois ex nihilo, c'est-à-dire qui arrivent en plus. C'est à l'intérieur des postes disponibles qu'il y a une répartition nouvelle. Et là, nous sommes très heureux. Et en tant que responsable de l'école neurologique, et j'intègre la neuropédiatrie dans cette activité, de dire que Dr Emmanuel Raffaut a été promu professeur, donc responsable de l'école de neuropédiatrie le 1er septembre dernier. Le docteur Louis Maillard sera professeur le 1er septembre 2012. Et parallèlement, nous avons la création d'un neurochirurgien spécialisé, hautement spécialisé en neurochirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire l'implantation des électrodes, telles que vous les avez vues. C'est le docteur Sophie Colna qui devient professeur d'université Sophie Colna. Et puis aussi, nous avons la création, c'est-à-dire le quatrième emploi de PUPH, professeur d'université, pour un neurochirurgien pédiatrique, qui est le docteur Olivier Klein. Je salue l'arrivée de mon très grand ami Jean-Pierre Vignal, qui m'accompagne depuis maintenant près de 15 ans et qui est directement, j'allais dire, mon bras droit, je le dis, sur le plan adulte, pour suivre cela. Je suis très fier aussi de dire que chacun a des élèves, parce que la conviction dans la maison, c'est qu'il faut toujours des arrière-grands-parents, parents, etc., etc. Eh bien, je sais que Louis Maillard a déjà ses élèves, Jacques Jonas, qui ne tardera pas à arriver. Et puis également Emmanuel Raffaut, et vous avez vu donc docteur Lambert ici présent. Et donc tout le groupe, on peut dire, d'épileptologie, qui est donc à vos services, j'allais dire, est très important et devient l'un des plus importants sur le plan national. Cela se fait aussi parce que nous avons une amitié depuis plusieurs années avec donc vos responsables, et notamment M. Pierre Gravier, qui s'est investi pleinement dans... je crois, une très grande courtoisie et d'échange avec les différents malades qui font partie de l'accueil épilepsie Lorraine, qui devient une association, je crois pouvoir le dire, parmi, peut-être, la plus importante au niveau de la France, et qui sait s'étendre et fédérer. Et pour nous aussi, le mot fédérer est très important. Il ne faut pas travailler seul, il faut travailler en équipe. Il faut savoir fédérer, il faudra... convaincre, il faudra réunir, et ça c'est très important pour être suffisamment présent sur la scène, j'allais dire politique, comme vous allez voir dans quelques minutes. Puis aussi avec l'Office d'hygiène sociale de Lorraine, avec donc son président, conseil d'administration, M. Mercier, qui viendra, son directeur général, M. Renaud Michel. Je suis moi-même membre du conseil d'administration donc, de l'Office d'hygiène sociale de Lorraine. L'aide apportée par le Conseil général sur ce plan, Madame Pilu qui arrivera donc dans quelques minutes également, et sans une parfaite compréhension, une collaboration, j'allais dire, la prise en charge globale telle que, j'allais dire, le médecin que je suis et l'universitaire que je dois être également, eh bien, on n'aurait pas atteint ces objectifs. Vous avez vu aussi, forte activité de recherche dans le traitement du signal avec le CNRS, Louis Maillard qui coordonne donc cette activité, et également avec l'INSERM, il n'a pas précisé, mais Emmanuel Raffaut, eh bien, dans cette partie chez les petits animaux, eh bien, il y a toute une activité de recherche qui se fait. Je crois pouvoir dire, hein, les amis, qu'on est un centre unique, et j'en suis très fier, je le dis sans modestie, parce qu'il faut savoir le répéter et l'affirmer. Voilà ce que je voulais dire. Alors, la tâche donc me revient, hein, de parler des épilepsies sans cause, hein, c'est-à-dire dont la cause n'est pas connue. Je voudrais tout simplement vous dire que deux points d'introduction. Le premier, c'est sur la sémantique. Et Pierre Lahalle, Gravier, est venu me dire dans l'oreille, il m'a dit, il faut absolument que tu dises idiopathique, parce que le terme idiopathique, c'est un terme de médecine, c'est des médecins. Et il faut que nous, il faut faire passer le message. Bien, vous allez voir, le terme idiopathique vient du grec. Tout ce qui vient du grec est moins précis que le latin. Bon. Mais ça a été créé par, à vrai dire, Henri Gastaut. C'est Henri Gastaut qui avait aussi une forte culture, enfin, qui avait des convictions aussi sur le plan de la sémantique, et qui avait choisi ce terme-là, idiopathique. Et savez-vous, et je pense que peut-être mes élèves ne le savent pas, pensent, que veut dire le terme idiopathique ? Idiopathique veut dire maladie approximativement, hein, de la traduction du grec. Maladie à part entière. Ça veut dire que c'est un cadre nosologique. Nosologique, ça veut dire précis, nosologique bien défini. Donc un cadre particulièrement bien défini. Ça veut dire maladie à part entière. Alors quand on dit idiopathique, donc maladie à part entière, non idiopathique, ça veut dire qui ne fait pas partie d'un cadre bien défini, à part entière. Alors comment comprendre alors que l'on ait encore un autre cadre qui serait de cause inconnue ? Donc je comprends bien vos difficultés, le malade, et là il y a manifestement un hiatus, un fossé, entre le langage des médecins et le langage, comme on dit, des usagers et des malades. Je fais partie de ceux qui considèrent que ben, faut faire évoluer les choses. En 2004, à la réunion de consensus dirigée par la Haute Autorité de Santé, j'étais le responsable de la partie éducation thérapeutique, on a fait des exposés, on a fait des articles là-dessus, et on a proposé. Mais ce n'est pas repris. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais on a été le premier. Donc à signer un papier, comme on dit, donc un article, normalement à vision internationale, en classant de façon différente. Parce qu'à l'époque, c'était encore plus compliqué. Il y avait le terme cryptogénique qui voulait dire crypte cachée. Alors vous voyez, cause inconnue, cause cachée, enfin, ça complique encore les choses. Et nous, on avait dit, eh bien, et lui vous en a parlé un petit peu de cette partie-là, c'est simple finalement. Il y a les causes symptomatiques et il y a les causes non symptomatiques. Et dans les causes symptomatiques, il y a les causes certaines. Il y a les causes probables, il y a les causes possibles. Dans les causes certaines symptomatiques, il y a les causes structurelles ou lésionnelles, celles que la lésion, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, et peut-être des causes métaboliques. Donc nous préférons, enfin, à titre personnel, je ne sais pas quel sera l'avenir de ces classifications, mais c'est un langage, si vous voulez, qui parle, à mon sens, un peu mieux. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant, dans beaucoup d'autres maladies, ils ont osé changer de classification. Des termes idiopathiques sont complètement balayés, ça veut dire tout et rien du tout. Ce n'est pas bien du tout, à mon sens. C'est un terme ancien. Et symptomatique, eh bien, veut dire c'est le symptôme de. Et le terme certitude est probable ou possible. Certain, probable, possible, eh bien là aussi veut dire ce que ça veut dire. Voyez, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point que je souhaitais dire alors, directement, lorsque on est face à un malade, à sa famille, et qu'on nous pose la question, ça vient d'où? Pourquoi? Et qu'on arrive donc à la conclusion ou à l'information de dire, la cause est inconnue, ça ne fait que renforcer l'angoisse très légitime de l'annonce déjà du diagnostic. Annoncer le diagnostic d'épilepsie est une annonce difficile et doit être entourée d'un accompagnement nécessaire, parfois même d'emblée d'un soutien psychologique. Je peux vous certifier, le vécu, l'expérience à l'heure actuelle, nous sommes loin de pouvoir bien assurer l'accompagnement nécessaire à la prise en charge initiale du diagnostic d'épilepsie. Souvenez-vous, pour la plupart, vous avez un long vécu d'une maladie épileptique. Souvenez-vous, la première fois qu'on a dit comment ça a été fait, comment ça a été vécu. Je peux vous affirmer qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore les possibilités de bien pouvoir faire notre travail. Et cet accompagnement, ce soutien psychologique, souvent nécessaire, n'est pas encore réalisé, effectué de façon correcte. D'où l'intérêt de progresser, travailler ensemble et savoir s'organiser pour pouvoir le faire. Donc, lorsqu'on dit cause inconnue ou cause pas connue, ça renforce effectivement cette angoisse. Alors, le but de mon propos, c'est d'essayer de vous dire, ou vous expliquer, ou faire comprendre que finalement, toutes les causes sont connues. Alors, vous allez me dire, attendez, qu'est-ce qu'il raconte là? Il y a des causes qui sont connues, pas connues, il doit parler des causes pas connues, puis il va essayer de nous convaincre que tout est connu. Bien oui. Tout est connu. On ne peut pas considérer que la cause n'est pas connue de l'épilepsie. Que l'on puisse la détecter directement, c'est une affaire. Mais au niveau de la cause, c'est une maladie à part entière qui ne correspond certainement pas à, j'allais dire, un dysfonctionnement non apprécié ou non mesurable ou non connu du fonctionnement cérébral. Inconnu, ça voudrait dire cela. Si on demande dans certaines pathologies, eh bien, comment l'expliquer? On sait très bien que pour certaines pathologies, il n'y a vraiment, vraiment pas d'explication sur le plan du mécanisme. Sur le plan de l'épilepsie, nous savons que c'est un problème électrophysiologique. Ce problème électrophysiologique est déterminé par une modification, si vous voulez, neurochimique, chimique. et il n'y a pas d'autre possibilité, et cela est bien construit, d'autant plus que des modèles animaux peuvent être créés. Pour les maladies pour lesquelles on dit qu'il n'y a pas de cause connue, eh bien, il n'y a pas non plus de modèles animaux existants. Donc l'épilepsie en tant que telle correspond à un phénomène électrophysiologique sous couvert d'événements neurochimiques. Mais si on me demande, pour d'autres maladies du cerveau encore plus précises, par exemple la matérialisation de la pensée, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans un phénomène hallucinatoire, le contenu d'une hallucination, qui correspond à des aspects très proches de la psychiatrie également, psychiatrie, le terme utilisé à l'heure actuelle, mais qui correspond aussi pour un grand nombre de maladies à des dysfonctionnements vrais et précis du cerveau, du fonctionnement cérébral, eh bien là, nous n'avons pas le support de la matérialisation de cela. En revanche, pour le phénomène épileptique, nous disposons de la matérialisation de cela. Donc la cause est obligatoirement connue. Alors maintenant qu'elle soit détectée, c'est un autre problème. Et détecter, cela veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire les moyens nécessaires qui sont mis à notre disposition qui permettent de détecter la cause. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben moi, je vais prendre ma vie. 30 ans d'expérience. Je suis arrivé en 1975, donc, à commencer la neurologie. Ça fait même plus de 30 ans. T'as raison. Voilà. J'ai été interne, donc, à Saint-Julien. Qu'est-ce qu'on avait comme appareil ? Eh bien, les amis, eh bien, nous n'avons pas de scanner à l'époque. On ne détectait pas grand-chose avec l'artériographie et l'encéphalographie gazeuse fractionnée. Les malades qui arrivaient, n'est-ce pas ? On avait l'électroencéphalogramme. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait injecter un petit peu d'air. Et les plus jeunes, c'était les internes. On prenait l'air. Et vous savez, les infections nosocomiales dont on parle maintenant, vous savez l'air ce que c'était à l'époque ? C'est qu'on prenait une seringue, on prenait l'air, c'est l'air, hein ? Et puis on injectait, n'est-ce pas ? Et on n'avait pas plus d'infections. Jean-Pierre, tu te souviens de ces affaires-là ? Et on avait donc l'encéphalographie gazeuse fractionnée. En 1977, on a vu arriver le premier scanner qu'on appelle le densitome, premier qui est arrivé en France, à Marseille. À Marseille, parce que Henri Gaston, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était correspondant de l'OMS à Marseille. Et on a eu densitome sur des petites plages, des petites pages de photographies de Polaroid. Lorsqu'on a vu ça, Luc Picard, lorsqu'il nous a montré en 1900, allez, je crois septembre ou octobre, 1976, je m'en souviendrai toute ma vie, extraordinaire, un densitome. Puis ensuite, on a vu arriver des IRM de première génération. Et là, tout à l'heure, on nous a parlé des nouvelles générations. Il y a encore plus que cela. Eh bien, on a découvert des choses qu'on ne trouvait pas sur le densitome. Par exemple, pour vous dire, en 1988, à la Société française de neurologie, nous avons été les premiers à montrer l'intérêt de l'IRM dans les épilepsies pharmacorésistantes pour lesquelles le scanner est normal, et on a décrit les petites malformations artério-veineuses qu'on appelle les cavernomes, que vous avez vues tout à l'heure, ces petites framboises. L'école de Nancy a été la première à montrer, avec Luc Picard et Michel Weber, et j'ai fait la présentation, eh bien, des premiers cavernomes qui existaient. Donc à l'heure actuelle, j'allais dire, l'IRM de 3 Tesla que nous avons nous permet de détecter ce que Louis Maillard vous a montré tout à l'heure, une grande partie des dysplasies corticales. Les dysplasies corticales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites malformations au niveau du cortex, il vous l'a expliqué. Eh bien, il vous a montré aussi que même parfois, sur des arguments électroencéphalographiques, il sait qu'il existe une anomalie, il en est certain. Jean-Pierre en est certain. Et c'est par l'intervention chirurgicale après, alors que l'IRM actuel est normal, qu'on verra la dysplasie corticale, la petite anomalie du cortex. Donc, la lésion n'a pas été détectée par l'IRM. C'est le mot, vous voyez, détectée. On vous a parlé des IRM de 7 Tesla. Ça veut dire très performante. Très bien. Il existe déjà, au Japon et aux États-Unis, il existe déjà des firmes qui ont mis au point des, j'allais dire, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais de 11 Tesla. C'est-à-dire que l'on voit déjà les couches, l'architectonie, si vous voulez, du cortex. On nous a même montré d'ailleurs que dans la maladie d'Alzheimer, on pouvait même voir les plaques correspondant à la dégénérescence, à la maladie d'Alzheimer, pour tout à fait autre chose. Donc, ce que je souhaitais vous dire, parce que là, le temps passe et je veux respecter mon temps, eh bien, les causes connues existent. Toutes les épilepsies ont obligatoirement des causes connues. Et parmi les causes qui ne sont pas détectées à l'heure actuelle, eh bien, elles seront d'autant plus détectées que les moyens, j'allais dire, de l'imagerie progresseront, jusqu'au moyen d'ailleurs de l'imagerie de biologie moléculaire, c'est-à-dire, et vous en avez vu une partie, par l'exposé de génétique, sur le plan d'une définition du chromosome. Voilà ce que je voulais vous dire. Finalement, c'est un message rassurant. Et vous savez pourquoi c'est rassurant ? Parce qu'on s'est battu aussi, enfin battu, on a participé, si vous voulez, à des échanges. L'épilepsie était classée, et toujours classée d'ailleurs, mais par la Commission européenne et grâce à Madame Nathalie Griesbeck, qui sera également présente et qui nous fait le grand honneur d'être ici, que nous avons, nous osons dire, députée peut-être européenne de l'épilepsie, hein, n'est-ce pas Pierre ? Elle nous a tellement bien aidés sur le plan européen. Députée donc de Moselle, hein, européenne de Metz, et donc elle nous a bien aidés. Eh bien, nous battons parce que l'épilepsie est classée sur le plan mondial, à l'OMS, dans les maladies mentales. Alors si on me dit maintenant, et vous voyez, maladies mentales, quelles sont les causes des maladies mentales ? Eh bien, je veux dire, il y en a beaucoup qui ne sont pas connues. Donc on arrive au terme que, au sujet de petits propos que j'ai développés devant vous. Mais est-ce qu'on peut les détecter ? Non, on ne pourra pas les détecter. Et c'est tout l'objet, et c'est toute la force de l'épilepsie, qui est manifestement une maladie neurologique, structurée, qui atteint une zone, des zones bien déterminées du cerveau. Ce n'est pas une maladie mentale. Merci. Merci.